L'Éden de Satan numéro 31. Questions et réponses. Des ministres de l'Amérique du Sud. Point 13 février 2022. Pasteur Brian Kozurek. Il y a de cela une semaine, nous avons rencontré 14 et 15 frères sur Google Meet où nous avons eu une réunion mensuelle avec les ministres de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, de l'Équateur, du Paraguay et de plusieurs coins du Pérou. Nous avons également été avec les frères de la Norvège et des États-Unis. En gros, 8 pays sont représentés à chaque réunion. Deux fois, ils sont moins mais la majorité des participants Esther présente à chaque mois. Parfois, il y en a un que je n'ai mis connaissent pas. Mais la majorité sont les mêmes frères, qui sont réguliers. Le format de ces réunions, Esther que ce sont des questions et réponses, d'habitude entre 8 et 10 questions, et le moins je pense, c'était 5. Nous organisons cela une fois par mois, également avec les ministres francophones de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Je n'y suis pas certain du Cameroun, quoiqu'il y a des frères qui lisent les sermons, mais je n'ai pas reconnu, avoir vu, l'un d'entre eux, assister aux réunions. Et je n'y sais pas si je les ai tous. Mais cela signifie qu'il y a environ 6 pays d'Amérique du Sud et 6 pays d'Afrique de l'Ouest qui y participent. Bien qu'au fur et à mesure, la parole Esther proclamée, lors des réunions des pays d'Afrique francophone, le nombre des participants, Esther croissant. Ce matin, nous aborderons les questions et réponses du samedi 5 février, car la semaine dernière, c'était notre communion de dimanche et j'avais déjà préparé deux sermons pour ce jour-là. J'ai donc reporté ces questions et réponses pour ce dimanche, si, afin que les frères de tous les autres pays en profitent aussi. Samedi prochain, nous aurons une autre séance de questions-réponses avec les frères d'Afrique de l'Ouest, de qui, j'avais déjà reçu 10 questions et y avoir répondu, et les ai renvoyées pour qu'ils soient traduites avant les réunions. Donc immédiatement après la dite réunion, les frères peuvent en avoir chacun une copie écrite. Cela les aide dans leurs études personnelles de la doctrine du message. C'est ainsi que ce programme a fonctionné. Je reçois les questions généralement 2 à 3 jours avant la réunion, puis les renvoie pour traduction environ un jour avant la réunion. Je le fais avec les deux ensembles de réunions, puisque l'Amérique du Sud est principalement composée de frères hispanophones et que l'Afrique de l'Ouest est principalement constituée des francophones. Maintenant, ce matin, nous allons examiner les questions et réponses que nous avons couvertes lors de la réunion du samedi 5 février avec les ministres sud-américains. Question numéro 1. Lors de la dernière réunion des ministres, vous n'avez pas eu le temps de répondre à la question concernant si un pasteur pouvait se marier à la veuve d'un autre ministre. Réponse numéro 1. Quand on en arrive au mariage et divorce, les Écritures nous disent tout ce que nous voudrons savoir et frère Branham le clarifie dans sa prédication sur le mariage et le divorce, lequel Esther le dernier mot sur la question du mariage et du divorce. Ainsi, Esther ce qu'un ministre peut épouser la veuve d'un autre ministre, il a dit, absolument pas. Il n'y a aucun ministre qui puisse épouser une veuve. Pourtant, il nous a dit de lire Lévitique 21, 7 et Ézéchiel 44, 22. Ainsi, après que je lis ces déclarations et les deux écritures y afférentes, alors vous allez vous-même vous décider. Le mariage et le divorce 21 février 1965 MP 75. Maintenant, prenant en considération ces vérités confirmées de Dieu, cherchons un peu plus, Si vous le voulez bien. L'assemblée dit. Amen. Tirendee. Bien. Or, ceci va peut-être faire un peu mal à qui? Jusqu'à ce qu'on soit arrivé au fond de la question, je vais vous en montrer la vérité. 156 Aucun ministre Néhémie peut épouser une veuve. Saviez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez les Lévitiques. Lévitique 21.7 et Ézéchiel 44.22. Et vous y verrez que le sacrificateur Néhémie devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est-ce le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ? En effet, les sacrificateurs, les fils d'Aaron, ce sont eux qui manipulent le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire pour sortir à midi. Il nous reste 20 minutes. Ce sont eux les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors Néhémie pouvait pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est Esther le Dieu immuable qui l'a dit. Néhémie pouvait pas épouser une autre femme. Et une femme qui avait été touchée par un homme. Ce qui montre ici en type, si vous voulez le voir, que l'Église du Dieu vivant Esther la parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Lévitique 21, 7 Ils Néhémie prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils Néhémie prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Maintenant, lisons dans Ézéchiel 44, 22 Ils Néhémie prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. 23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est terre saint de ce qui est terre profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est terre impur et ce qui est terre pur. 24 Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. Les pasteurs dans notre groupe ont aussi d'autres questions au sujet du mariage et divorce. Question numéro 2. Est-ce que l'exigence d'épouser une vierge s'applique aussi aux autres ministères que celui du pasteur? Réponse numéro 2. Oui. Nous venons de le lire Lévitique 21 et Ézéchiel 44. Je n'ai mis peut rien dire d'autre que Dieu a commandé de dire. Souvenez-vous qu'il a dit dans Ézéchiel 44. 23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est terre saint de ce qui est terre profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est terre impur et ce qui est terre pur. 24 Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. Question numéro 3 1 Timothée 3, 1 Que signifient ces qualifications? Pour ceux qui aspirent à la charge d'évêque, cela veut-il dire que ces exigences sont seulement pour ceux qui veulent travailler par leur propre libre arbitre et non pas pour ceux qui ont un véritable appel de Dieu? Réponse numéro 3 Lisons nous-mêmes dans 1 Timothée 3, 1. Ainsi, nous comprenons tout la question. 3, 1 Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspira maintenant, vous utilisiez le mot aspire, mais ici, il signifie pas plus, pas moins tendre la main pour la charge d'évêque. Il désire, place son cœur dans une œuvre excellente. Ainsi, la question était la suivante. Est-ce le fait d'avoir le désir de servir Dieu, que Paul qualifie d'une bonne chose? Est-ce faux? Ou ceci s'applique-t-il aussi à ceux qui sont véritablement appelés par Dieu? Mes frères, si vous êtes dans le ministère, juste à cause du fait que Dieu vous a appelé à cela, et que vous n'avez aucun désir de plaire à Dieu et faire le travail auquel Dieu vous a appelé, alors je doute fort que vous soyez appelés par Dieu pour l'office. Remarquez, Paul qualifie le désir ou la main tendue. Par les mots, il a placé son cœur dans une bonne chose. Maintenant, je sais que frère Branham dit que tout homme véritablement appelé de Dieu cherchera à échapper à cette responsabilité. Mais combien loin pourrez-vous fuir mes frères de Dieu, qui connaît les pensées et les intentions du cœur? Il peut fuir, mais à quelle distance pourrait-il s'éloigner d'un Dieu qui peut arrêter sa fuite et utiliser une baleine pour l'emmener à l'endroit où Dieu l'aurait envoyé d'y aller? Les pas du juste sont conduits par le Seigneur, quoiqu'un homme puisse choisir sa voie. Pourtant le Seigneur conduira ses pas. Psaume 37, 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme, un homme juste, et il prend plaisir à sa voie. 24. S'il tombe, il n'estère pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est à l'Éternel qui dirige ses pas. Maintenant, un homme Néhémie peut fuir ses responsabilités pendant longtemps, que si Esther engendre des fils obéissants, quoique Néhémie veuille par servir Dieu, dans le ministère, pourtant, il s'abandonnera lui-même à la volonté de son père, s'il Esther un bon genre de fils. 1 Timothée 3, 2. Il faut donc que l'évêque épiscopaux, un ministre chrétien, un surveillant d'eau, il faut donc que l'évêque, le mot grec Esther, épiscopaux, qui Esther définit comme un ancien et de ce fait, un conducteur, soit irréprochable, savait être sans reproche, mari d'une seule femme, sobre, ce qui signifie ferme, modéré, lucide, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3. Il faut qu'il n'ait mis soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? J'ai vu beaucoup des soi-disant prédicateurs, dont les enfants étaient mondains, et très antichristes dans leurs croyances, et ce qui me tourmente, c'est que les gens laissent passer cela. Ils lui font un clin d'œil. Mais comment un homme peut laisser ses enfants fouler aux pieds la parole de Dieu, et conduire la maison de Dieu, conformément à la parole de Dieu, si Néhémie peut pas diriger sa propre maison par la parole de Dieu? Pour moi, c'est une grande disqualification du ministère, parce que c'est comme si, lui-même vivait de la même manière. Et ensuite, Paul dit, s'il n'est mis, il faut pas qu'il soit un nouveau converti, un novice, de peur qu'enflé d'orgueil il n'ait mis tombe sous le jugement du diable. C'est il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de n'ait pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. 8. Les diacres aussi, de la même manière, doivent être nets, honorables et honnêtes, éloignés de la duplicité. Pas de duplicité. Raconte l'histoire de la même manière à chaque fois qu'il la raconte, des excès du vin, d'un gain sordide, une personne qui n'espère pas focaliser sur l'argent. 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. En d'autres termes, dans la conversation et la vie, exprime la même chose, disent qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. 1. Les femmes, de même, doivent être nettes, vénérables, respectées, non médisantes, comme orage mensonger, sobres, sensibles et sérieux, fidèles en toutes choses. 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. 14. Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Dans le Nouveau Testament, un évêque Esther, un ancien, qui a aussi le rôle d'enseignant, qui enseigne et instruit les autres. Le mot grec épiscopo, quoique traduit comme épiscopal, signifie ancien, aussi bien que surveillant, ou pasteur. Mais tous ces termes se réfèrent au même office, expriment de différentes manières le rôle d'un épiscopat, l'ancien. Dans l'Église primitive, les conducteurs de l'Église locale étaient considérés comme des anciens. Sestères à cause de leur âge et leur maturité, et les deux marchent ensemble. Les cheveux gris suggèrent l'âge et non seulement qu'ils suggèrent l'âge mais aussi l'expérience et la sagesse qui vont avec l'âge. Ainsi, nous lisons dans Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs, la tête couverte des cheveux blancs, sont une couronne d'honneur, sestères dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Ainsi, si un homme marchait dans la justice, qui estère la juste sagesse, alors de son vieillissement apparaissent des cheveux gris et avec cela, l'expérience et la sagesse qui vient avec l'âge et toutes les épreuves et les tests de la vie. Raison pour laquelle l'ancien dans l'église locale n'estère pas un novice, ou un nouveau converti à l'évangile. Proverbe 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs, pour connaître la sagesse, de car je vous donne de bons conseils, Néhémie rejetait pas mon enseignement. 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. 4. Il m'instruisait alors, et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. 5. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche, et Néhémie t'en détourne pas. Si Néhémie l'abandonne pas, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. 7. Voici le commencement de la sagesse, à qui est la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes à qui est l'intelligence. 8. Exalte-la, et elle t'élèvera, elle fera ta gloire, si tu l'embrasses. 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. 10. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. 12. Si tu marches, ton pas Néhémie sera point gêné, et si tu cours, tu Néhémie chancellera point. 13. Retiens l'instruction, Néhémie t'en dessaisit pas, garde-la, car elle estère ta vie. Frère Branham dit dans sa prédication, pourquoi, nous Néhémie sommes pas une dénomination 27 septembre 1958-59 pourquoi, voici juste ici, un don plus grand. Qui serait le meilleur? Le don du Saint-Esprit de sagesse pour placer la parole de Dieu ensemble et de montrer à l'Église, où nous nous tenons, que d'avoir simplement quelqu'un de guéri? Nous voulons tous être bien, mais je préférerais avoir mon âme en bonne santé, que mon corps à n'importe quel moment. Maintenant, souvenez-vous que Jésus a dit dans Jean 14, 17, l'Esprit de vérité, que le monde Néhémie peut recevoir, Néhémie l'a pas expérimenté, parce qu'il Néhémie le voit point, Néhémie le connaît, point, ce mot connaît estarginosko, qui signifie une connaissance expérimentale. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il est impossible de Néhémie pas connaître qu'il vit et demeure en vous. J'ai entendu un pasteur appelé frère Billy Paul et voulait savoir, comment nous pouvons savoir, si nous avons le Saint-Esprit, frère Billy a dit, qu'il était choqué par cette question, venant d'un pasteur. Pourtant, s'estère ce qui s'estère passé. Mais l'apôtre Jean le rend plus clair dans 1 Jean 4, 13 nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. 14 et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et ensuite dans seulement quelques phrases plus loin dans 1 Jean 5, 10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui n'est aimé croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il n'est aimé croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez, afin que vous ayez d'eau, afin que vous soyez conscients et compreniez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons, et ido, sont conscients et comprennent qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons, et ido, sont conscients et comprennent que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ainsi, vous voyez qu'il a promis que quand l'Esprit de vérité vient, il vivra en vous. Et vous connaîtrez, vous serez conscients et comprendrez. Et Jean dit que quand vous regardez à votre vie et que vous voyez sa vie, alors vous connaîtrez et serez certain que votre vie fait l'écho de sa vie. Et vos paroles font l'écho de ses paroles. L'apôtre Paul dit qu'à moins que vous ayez le Saint-Esprit, vous n'ayez ni comprendrez jamais les choses de Dieu. Et je pense qu'une écriture doit rendre évident comment beaucoup des prédicateurs et des gens qui prétendent suivre ce message ont le Saint-Esprit. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est 1 Corinthiens 2, c'est de connaître et de comprendre l'évidence de recevoir le Saint-Esprit. C'est que vous comprendrez les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est mis son point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ni Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu, sont tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Très bien. Ainsi, juste là, il dit que la raison que nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est pour que nous connaissions les choses de Dieu. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit est l'enseignant, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Maintenant, un homme qui manque de l'Esprit de Dieu, Néhémie peut comparer les choses avec le spirituel, parce qu'il n'a pas l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, en vous qui compare le spirituel d'avec le spirituel. Alors, l'apôtre Paul le clarifie quand il dit, 14 Mais l'homme animal Néhémie reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et Néhémie peut les connaître. Il est impossible pour lui de connaître les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, alors comment pouvez-vous discerner ce qui permet à l'Esprit de discerner? 15 L'homme spirituel, celui qui est rempli de l'Esprit, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Maintenant, l'apôtre Paul Néhémie l'a pas apporté de lui-même. Jésus nous a dit ce que le Saint-Esprit, dans l'homme, ferait dans l'homme quand il viendrait dans Jean 16, 13 Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, comment est-ce ce que nous avons des hommes, qui prétendent être des ministres du plus grand message, que ce monde n'ait jamais vu, et pourtant, être si aveugle, à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? C'est-ce parce qu'ils n'aiment comprennent pas les choses de Dieu? Il a dit si vous avez le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et vous montrera les choses à venir. Frère Branham dit dans sa prédication, les uns au temps de la fin 25 juillet 1965 MP, 168. En référence à Hébreux 6, car il est impossible à ceux qui une fois, étaient éclairés et n'ont pas avancé, avec la parole comme elle s'accomplit. Ils sont morts, perdus. Et les épines et les chardons, destinés à être rejetés, dont la finalité, est d'être brûlés, est-ce vrai? Maintenant, je vais me dépêcher aussi vite que je le peux. Observez simplement Daniel. Il a lu dans les écrits de Jérémie, ce qui devait arriver et ensuite il a attendu cela. Remarquez, ce que frère Branham dit à ce sujet. Dans sa prédication, les instructions de Gabriel à Daniel 30 juillet 1961 MP, 57. Il dit, maintenant, revenons à la leçon. Daniel lisait. Pensez simplement, Daniel a lu les mêmes paroles que nous lisons ce matin. Daniel a lu la même Bible, avec la même ponctuation, les mêmes phrases, les mêmes choses que moi. Avec l'aide de Dieu, je vais vous lire dans les quelques messages à venir, la même chose, pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Alors Daniel, prenant la parole de Jérémie, descend à Babylone. Et il était le prophète oint. Et il a opéré des miracles, des signes, il pouvait interpréter les langues inconnues et a accompli des signes et des prodiges au milieu d'eux. Pourtant, il était tout seul. Amen. Il était seul. Et dans son audio à frère Vell, il a dit, la lettre audio à l'IEL 00.05.964p, 2. Néhémie, trouvez-vous pas qu'il serait donc recommandé ici de dire que Dieu, afin de proclamer ceci, doit envoyer un prophète afin d'injecter ceci, de rendre cela réel de nouveau, de montrer aux gens l'heure où nous vivons? En effet, s'ils voient cela seulement à l'époque passée, alors il n'y a plus d'espoir pour l'Église. L'Église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie son prophète pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez? Et puis, après que c'est terminé, alors cela appartient à l'histoire. Eh bien, vous pourriez insérer cela, frère Lee. Je n'ai mis c'est pas si c'est nécessaire ou pas, mais ce n'est qu'une pensée, juste ici. Merci beaucoup. Remarquez, ainsi quand le prophète manifeste le temps présent alors après qu'il ait quitté la scène, c'est de l'histoire. Mais qu'en est-il de ces événements qui arrivent, alors que le prophète a quitté la scène? Je crois que c'est là où le Saint-Esprit entre. Comme Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ainsi, le plus grand don que nous pouvons avoir en tant que ministre, c'est le don de nous mettre de côté, et de laisser Dieu nous utiliser pour s'exprimer lui-même et ce qu'il fait ici en cette heure. Dans sa prédication, écoutez, le 19 mai 1957 AP, 35, frère Branham dit, j'aimerais vous demander quelque chose. Le plus grand de tous les dons qui existent dans le corps local. Et nous mettons tellement l'accent sur le parler en langue ou les interprétations. Or, le premier don, C'est Esther la sagesse. Esther ce juste. Le suivant. C'est Esther la connaissance. Comment allez-vous faire agir la connaissance lorsque vous n'avez pas de sagesse pour faire agir cela? Voyez-vous? Si vous n'avez aucune sagesse, vous ne pourrez pas faire agir votre connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne saurez pas comment avoir la paix. Vous devez d'abord mettre les choses essentielles en premier, non pas se fonder les évidences sur le Saint-Esprit, Dieu. Écoutez, le 11 juin 1956 p. 35, le plus grand de tous les dons, Esther la sagesse, le second Esther la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la sagesse, et comment contrôler votre connaissance? Quel bien votre connaissance fera-t-elle? Voyez-vous ce que je veux dire? Cherchez les premières choses d'abord. Pourquoi? Nous n'émissons pas une dénomination 27 septembre 1958 p. 43. Le Saint-Esprit montrant comment ces dons opéreraient dans les derniers jours. Maintenant, nous avons des dons des guérisons à l'œuvre. Oh! Cela fonctionne bien. Bien, frère, il y a d'autres dons. C'est Esther juste l'un d'entre eux. C'est Esther juste une petite chose mineure. Pourquoi? Voici plus loin, un don plus grand, qui serait le meilleur. Le don du Saint-Esprit de sagesse pour placer la parole de Dieu ensemble et montrer à l'Église, où nous nous tenons, que d'avoir une personne guérie. Nous voulons tous être en bonne santé, mais je préférerais mon âme en bonne santé, que mon corps à tout moment. Les cinq identifications au septembre 1960 SP, 26. Maintenant vous dites, attendez une minute. Je pensais que vous n'aimiez prêcher que la Bible. 41 Laissons alors la Bible le dire. Prenons maintenant et lisons un instant. Ouvrez avec moi Apocalypse au chapitre 17. C'est Esther la révélation de Jésus-Christ à son Église. Église qui a été appelée à sortir. Apocalypse 17. Et nous allons essayer de le faire aussi vite que possible. Mais maintenant soyez attentifs pendant que nous lisons. Un des sept anges qui avait les sept coupes vint et m'adressa la parole. En disant. Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est Esther assise sur les grandes eaux. 42 Bien. Tout ceci est Esther un symbole. Car c'est Esther la révélation de Jésus-Christ. Qui est Esther scellée. Saviez-vous cela? C'est Esther une chose cachée et qui peut être révélée non pas par la pensée intellectuelle, mais uniquement par le Saint-Esprit, au moyen des dons de l'Esprit. Celui qui a de la sagesse, qu'il compte le nombre de la bête. Celui qui a de la sagesse, le don de sagesse, qu'il fasse ceci et fasse cela. Et voici la révélation. Le baptême du Saint-Esprit 28 septembre 1958 MP, 69. C'est Esther la raison pour laquelle, la Bible dit, à celui qui a de la sagesse. À celui qui a la sagesse, à celui qui a de la sagesse, à celui qui a ceci, l'Église là. Esther assise dans l'ordre. Néhémie, voyez-vous pas le grand plan de Dieu? Le baptême du Saint-Esprit 28 septembre 1958 MP, 18. À celui qui a de la sagesse. Nous savons que l'Esprit parle expressément qu'à celui qui a de la sagesse, à celui qui a de la connaissance, à celui, les esprits différents, les dons Néhémie pouvez-vous pas voir le mouvement de Dieu dans les derniers jours? Il doit se lever une église pleine de dons spirituels, les dons réels de Dieu. À celui qui a de la sagesse. Qu'il compte le nombre de la bête. Car c'est Esther un nombre d'hommes. Son nombre est Esther le 666. La marque de la bête 13 mai 1954 p. 83. Bien. Juste un instant. J'aimerais encore vous montrer ceci. pour que le Seigneur ait la bonté de nous bénir tous, alors que nous lirons ceci. Très bien. Suivez bien. Ici, maintenant, je lis le chapitre 13. Je commence au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image. 267 ça, Sester aux États-Unis, que nous avons vu s'élever, vous voyez, une image afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tout, ce qui n'adorerait pas l'image de la bête fût tué. Ça, Sester le boycottage. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne n'ait mis pu acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 268 Maintenant suivez, là, bien attentivement, là, très attentivement, avant que nous terminions. Le verset 18. Écoutez. Sester ici la sagesse. 269 Voyez-vous le Saint-Esprit lançait un appel aux croyants de ce dernier jour, ce petit groupe. Là, il parle, il fait appel au petit groupe de ce jour-ci, Sester pour celui qui a de la sagesse dans l'Église. Qu'ils comprennent ceci. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car Sester un nombre d'hommes, pas de nation. D'hommes et son nombre Sester 666. Ainsi, j'espère que vous comprenez que l'Esprit de vérité nous a été promis de nous conduire dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir. Et si cela n'a pas encore été prêché, alors ils n'est mis sont pas conduits par l'Esprit de vérité. Et ainsi, conformément à frère Branham dans le livre des âges de l'Église, quand la Bible parle de l'ancien, il s'agit de leur âge dans le Seigneur. Cela ne concerne pas une position dans l'Église, simplement leur âge dans le Seigneur. Ils sont des anciens parce qu'ils sont plus âgés. Livre des âges de l'Église chapitre 5, l'âge de l'Église de Pergame p. 121. Vous vous rappelez que j'ai expliqué, dans l'âge d'Éphèse, que le mot Nicolaïde vient de deux mots grecs, Nikao, qui veut dire soumettre, et Lao, qui veut dire les laïcs. Nicolaïde veut donc dire soumettre les laïcs. Or, pourquoi est-ce une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais mis son Église entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Il a confié son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'Esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Il n'a pas séparé les gens en classe, de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Il est vrai que les guides doivent être saints, mais ce doit aussi être le cas de toute l'assemblée. De plus, la parole Néhémie mentionne nulle part que des prêtres ou des ministres du culte font office de médiateurs entre Dieu et les gens. Pas plus qu'elle Néhémie mentionne qu'ils sont séparés dans le culte qu'ils rendent au Seigneur. Dieu veut que tout l'âme et le serve ensemble. Le nicolaïsme détruit ses principes en séparant les ministres du culte et les gens, et en donnant aux guides spirituels une place de dominateur, au lieu d'une place de serviteur. Or, cette doctrine était déjà apparue dans le premier âge sous forme d'œuvre. Il apparaît que le problème provenait de deux termes, ancien, presbyte, et surveillant, évêque. Bien que l'Écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église, certains, dont Ignace, se mirent à enseigner que le rôle de l'évêque était d'avoir prééminence et autorité sur les anciens. Or, en fait, le mot « ancien » se rapporte à la personne elle-même, alors que le mot « évêque » se rapporte à la fonction remplie par cette même personne. L'ancien, Sester l'homme. Évêque, Sester la fonction de ce même homme. ancien a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans le Seigneur. Il Esther un ancien? Non parce qu'il Esther élu, ordonné, etc., mais parce qu'il Esther plus ancien. Il Esther plus mûr, mieux exercé. Ce n'Esther pas un novice? Il Esther digne de confiance à cause de son expérience et d'une expérience chrétienne, éprouvée par le temps. Mais non, les évêques Néhémie s'en sont pas tenus aux épîtres de Paul, mais ils se sont référés au récit que Paul fait de la foi où il avait appelé les anciens d'Éphèse à muets dans Actes 20. Au verset 17. Le récit déclare qu'il avait envoyé chercher les anciens. Puis, au verset 28, ils sont appelés surveillants évêques. Et nos évêques, sans aucun doute animés d'arrière-pensée politique et avides de pouvoir, affirmaient à présent que Paul avait voulu dire que les surveillants étaient plus que l'ancien local, dont la compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait à plusieurs guides spirituels locaux. Ce concept n'était conforme ni à l'écriture, ni à l'histoire. Et pourtant un homme de l'envergure de Polycarpe penchait vers ce genre d'organisation. Ainsi, ce qui avait commencé sous forme d'œuvre dans le premier âge est devenu une doctrine au vrai sens du terme, et l'Esther restait jusqu'aujourd'hui. Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire d'eux ce qu'ils veulent, en les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère. Esther renie la conduite du Saint-Esprit, qui a dit, « Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est Esther anti-parole et anti-Christ. Matthieu 20.25-28. Jésus les appela, et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Esther ainsi que le Fils de l'homme Esther venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon du beaucoup. Matthieu 23.8-9. Mais vous, Néhémie, vous faites pas appeler Rabbi, car un seul Esther votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul Esther votre Père, celui qui Esther dans les cieux. Dans Philippiens 1, Paul introduit sa lettre Paul à Timothée, serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, dans l'église primitive. Il y avait juste deux positions de leadership dans l'église locale, les anciens, qui étaient des hommes âgés, capable d'enseigner, que Paul appelle ici, des surveillants et ensuite, les diacres, qui étaient des hommes matures, qui étaient capables d'aider et d'assister l'ancien dans n'importe quel besoin exprimé. Dans les épîtres de Paul, il parle deux fois des qualifications des anciens, ceux qu'il considère comme des conducteurs de l'église locale, aussi remarqué que ces anciens enseignaient aussi la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 3, 1-7. Nous lisons, 1 Timothée 3, 1-7 parole Esther certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, épiscopat, il désire une œuvre excellente. 2 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3 Il faut qu'il n'ait mis soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4 Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 5 Car si quelqu'un n'ait mis sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? 6 Il n'ait mis il faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ait mis tombe sous le jugement du diable. 7 Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de Néhémie pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. À partir des Écritures, nous pouvons conclure plusieurs choses concernant l'ancien. Premièrement, l'ancien Esther une vieille personne, qui Esther remplie de sagesse et de compréhension. Et le travail de l'ancienne Esther une tâche noble. Deuxièmement, le rôle de l'ancienne Esther limité. Il doit être un homme, lequel Esther un ancien rempli de sagesse et de compréhension, dans le rôle Esther de conduire l'Église. Troisièmement, l'intégrité de l'ancienne Esther délicate. Il doit mener une vie, au-dessus de toute reproche des hommes. Il doit engager sa vie à sa seule femme. Il doit avoir une pensée pure. Il doit avoir de la maîtrise de soi. Il doit être bien respecté. Et il doit être amical. Il ne doit jamais être sous l'influence de l'alcool, ni violent, ni argumentative, et certainement pas cupide. Et il ne doit pas penser à lui-même premièrement, mais comme Dieu se montre, un père attentionné, ainsi, il devra se montrer toujours attentionné, pour ses enfants spirituels, et enfin il doit avoir une bonne réputation au milieu des membres de l'Église. Quatrièmement, il doit avoir la capacité d'enseigner. Dans la lettre de Paul à Tite, nous voyons aussi la liste des attributs et caractéristiques pour un ancien, pour servir dans la conduite d'une église locale. Tite 1, 5 « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, si s'il s'y trouve quelqu'homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui Néhémie soit ni accusé de débauche ni rebelle. 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme est un homme de Dieu, qu'il Néhémie soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10. Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. La lettre de Paul à Tite partage aussi une liste similaire pour les anciens, mais ajoute la capacité de réprimer les faux enseignements. Quand Pierre a écrit à ce groupe des conducteurs de l'Église, il s'était rappelé lui-même un collègue aîné, 1 Pierre 5, 1. 1 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée, de passer le troupeau de Dieu qui Esther sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Maintenant, Esther, c'est le problème avec le ministère comme je le vois aujourd'hui. Nous avons des jeunes ministres qui n'y chercheront pas un ancien pour être encadré, et ils pensent qu'ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Montrez où cela a eu lieu dans les Écritures. Dieu a toujours utilisé un ancien pour encadrer un plus jeune. Regardez Élie et Élisée. Regardez à Moïse et Josué. Regardez à Élie et Samuel. Regardez à Paul et Timothée. En fait, nous voyons que Esther est un modèle dans le livre des âges de l'Église. Livre des âges de l'Église chapitre 4. L'âge de l'église de Smyrne p. 140. 156-2 nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. Maintenant, croyez-vous tout ce qui se trouve dans ce livre des âges de l'église? Croyez-vous tous que c'était le livre de frère Branham? Très bien. Dans chaque âge, nous avons le même modèle. Maintenant, pourquoi est-ce ainsi? Parce que dans Malachie 3, 6, nous lisons « Je suis Dieu et je ne m'échange pas » dans Hébreux 13, 8 et nous lisons « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Très bien. Ainsi, nous avons établi cette pensée. Ainsi, lisons-la encore et alors nous allons vous montrer ce qu'est le modèle. Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Et frère Velmer enseigné, être fidèlement enseigné, implique deux choses. L'un qui enseigne fidèlement et d'autres qui seront patients pour écouter et apprendre. Maintenant frère Branham continue dans le livre des âges de l'église. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de n'émettre que ce que le messager a dit. Et c'est la raison pour laquelle frère Joseph Branham est allé à l'extrême dans la direction qu'il a prise. Parce que la majorité des ministres qui prétendent croire le message, Néhémie disent pas ce que le prophète a dit. Et je Néhémie peut pas le blâmer pour avoir adopté cette position. Et si je n'étais pas une personne fidèlement enseignée pendant 34 ans, sous frère Vel et parlant avec lui entre 4 à 5 000 heures, juste sur la parole. Ensuite, je pouvais arrêter et écouter les bandes moi-même. Mais je connais mieux et j'ai un palmarès où Dieu a confirmé ce ministère. Ainsi, je peux me tenir avec ceci parce que je me suis moi-même soumis à cela. Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu'ils n'aient mis disent que ce qu'il avait dit. I Corinthiens 14.37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous, que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur, et le réveil s'éteint. Comme nous devons faire attention à n'écouter qu'une seule voix. Car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Et laissez-moi juste dire ceci, que la seule voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que même lui, Paul, Néhémie pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh! Comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qu'il leur a été donné à dire aux églises. Ainsi, appuyez sur play. C'est très bien, si vous n'êtes pas un ministre appelé de Dieu, mais si vous l'êtes, vous ferez mieux de dire ce qu'il a dit et le montrer à partir des Écritures de la Genèse et l'Apocalypse. Quatrième question 4. Dans quel cas un homme Néhémie peut-il plus accepter sa femme, qui aurait commis adultère avec un autre homme? Peut-il se remarier avec n'importe quelle autre femme ou peut-il épouser uniquement une femme vierge? Réponse 4. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle un homme divorcerait de sa femme et se remarierait. Esther comme Jésus l'a dit, excepté pour cause de fornication. Ce qui signifie qu'elle a dit un mensonge à son conjoint, et elle a dit qu'elle était vierge, et qu'ensuite après qu'elle soit mariée, il découvre qu'elle lui avait menti et sur base de ce mensonge, il l'avait épousée, faisant de son vœu un faux vœu. Et dans n'importe quel tribunal, Quand un accord est fait, sur base d'un mensonge, cet accord est annulé sans effet. Matthieu 5, 32. Même moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée, comme un adultère. Le mariage et divorce 21 février 1965 MP, 76. Notez, lisons ceci, ici. Je veux vous faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Nous voulons le voir. Matthieu 5.32. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle, celui qui a dit au commencement. Maintenant regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme divorcée, comme adultère. L'union invisible de l'épouse 25 novembre 1965 p. 39. Maintenant, ayez à l'esprit qu'il s'agit de l'Église, pendant que je m'adresse à la femme naturelle, comme Paul le fait ici au 7e chapitre des Romains. Son Seigneur lui a confié la responsabilité d'une vertu, une certaine vertu. Personne n'est aimé détient cette responsabilité, si ce n'est la femme. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle n'est aimée doit pas souiller cette vertu. Si jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne, et arranger la chose. C'est pareil pour l'Église qui fut mariée à la loi. Elle doit aussi venir devant Christ, avant le second mariage, et elle doit confesser cela. Si elle n'est aimée le fait pas et qu'elle vive avec son mari 10 ans, et le confesse après, il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme. C'est l'Écriture. La fornication, c'est une vie impure. 68 Joseph, Néhémie craint pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il se proposait de rompre secrètement avec elle, voyez-vous, alors qu'il était déjà fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque vous êtes fiancé à une femme, vous êtes marié avec elle. Ainsi, l'homme peut se remarier mais seulement excepté pour cause de fornication, qu'elle fit avant qu'il n'ait mis les mariés mais qu'elle n'ait mis lui avait jamais dit. Cela annule le vœu ainsi, il est libre de la chasser et de remarier une autre, mais cela doit être une vierge. Pourquoi nous n'émis sommes pas une dénomination? 27 septembre 1958-74. Je vais arrêter mon sujet une minute, si c'est possible. Je lisais un passage des Écritures où il est dit qu'un enfant illégitime némi devait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Combien le savent? C'est vrai. Deutéronome 23. Un enfant illégitime. Si une femme est surprise dans le champ, c'est à dire hors de la protection des hommes, et qu'un homme lui fasse violence, cet homme devra l'épouser. Et même si elle devient une prostituée, il devra vivre avec elle jusqu'à sa mort. Et si cette femme l'épouse, prétendant être vierge, alors qu'elle n'est mis l'Esther pas, elle pourra être mise à mort à cause de cela. Et un homme et une femme qui sont mariés mettent au monde un enfant illégitime, celui-ci n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Et 40 ans représentent une génération, il faudrait 400 ans pour que ce péché soit ôté d'Israël. Question et réponse COD 15 octobre 1961 p. 81. Si vous faites attention à ce que Jésus a dit. Eh bien, j'ai ici un frère, mon propre frère de sang. Il se prépare à épouser une femme. Et mon frère s'était marié avant et avait eu un enfant avec une bonne femme. Et il est venu me voir pour que je le marie. J'ai dit, pas question. 170 dans Matthieu 5. Jésus a dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre sauf pour cause de fornication, ce qu'elle a dû faire avant de se marier, mais dont elle n'aimait lui avait pas parlé, l'expose à devenir adultère. Celui qui épouse une femme répudiée vit en adultère. Néhémie, faites donc pas cela. Non. Vous, Néhémie, pouvez pas retourner auprès de votre première femme si elle s'estère remariée. Question et réponse COD 28 juin 1959 SP 107. Maintenant, nous en avons encore une et puis ce sera tout. Voyons. 91. Frère Bill, quelle est-elle la différence entre la fornication et l'adultère? Selon Matthieu 19.9, 185 Jésus dit dans Matthieu 19.9, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, comme un adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être utilisé d'une façon ou d'une autre. Mais pour éclaircir ce dont il parlait là, cela, une femme célibataire, Néhémie, peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle, c'est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage, si elle a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier, parce qu'elle a fait un faux vœu. En effet, la Bible dit, que cela soit bien. Ou plutôt c'est le rituel qui le dit. Que cela soit bien connu de vous, j'ai cela dans la mienne. Que si un couple est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Je vous demanderai et exigerai de vous deux, puisque vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront révélés, que si l'un de vous connaît quelque chose qui empêcherait que vous soyez légalement unis, qu'il le confesse maintenant. Vous y êtes. Voyez, 186 donc. La fornication, c'est ce qu'une jeune fille, quand elle mène une vie impure, c'est la fornication, étant donné qu'elle n'a pas de mari. Mais quand elle est mariée et qu'elle mène alors une telle vie, elle commet adultère contre son mari. Le mariage et divorce 21 février 1965 p. 77. Vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme Néhémie peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui est Esther, elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison du tout. Mais sa Néhémie s'applique pas à lui. En effet, il s'agit d'elle, pas de lui. Saisissez-vous? On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous? Rien Néhémie dit que lui Néhémie peut pas. Mais elle Néhémie peut pas. Vous voyez? L'expose elle. Pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit, l'expose elle. Il n'est pas dit que lui Néhémie peut pas se remarier. Mais elle. Pourquoi? 176 Christ. En type. Remarquez, il est spécifié qu'une Néhémie peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se remarier. Il peut marier. Il peut se remarier, si c'est avec une vierge, mais Néhémie peut pas épouser la femme d'un autre. Non, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en adultère. Peu m'importe qui l'estère. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit en adultère. Voilà. Pas de divorcé. Absolument pas. Question et réponse COD du 23 août 1964 SP 104. Frère Branham, si un homme s'était marié puis a divorcé, de son sein comment? Je n'ai émis ses pas. Je n'ai émis pourrait vous le dire. La question Esther, peuvent-elles participer à l'enlèvement? Divorcées, chacune d'elles divorcées, chacune d'elles a un conjoint en vie, puis elles se sont remariées, toutes les deux se sont remariées. Et maintenant, celle qui, cette femme a un mari en vie, cet homme a une femme en vie. Et maintenant, ils ont des enfants, etc., et ils veulent venir à Dieu. Peuvent-ils aller dans l'enlèvement? Cela dépendra du Père Céleste. Je n'ai émis pour répondre à cela. Voyez-vous? 208 juge saine chose, la Bible dit qu'ils seront appelés adultères. Et la Bible dit aussi, un adultère n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est Esther tout ce que je peux dire. Je sais, cela me fait affreusement mal à qui de le dire, mais je n'ai émis pour dire que ce que dit la parole. Je dois m'en tenir à cela. Je souhaite que tout cela soit faux. Il y a des endroits dans la Bible. Question et réponse COD du 27 mai 1962 p. 17. Frère Branham, je me suis marié et ma femme Esther une incroyante, et voici une sœur ici, que je peux épouser. Je vais quitter celle-ci et marier celle-là. Oh! Non! Non! Indidi. Votre vœu Esther jusqu'à ce que la mort vous sépare, et il n'y a rien d'autre dans le monde, qui vous permettra de vous marier dans la Bible, à moins que votre conjoint Néhémie soit mort. C'est Esther juste. La seule base. Il n'y a pas de remariage nulle part du tout, excepté un conjoint mort. C'est Esther tout. Voyez-vous? Question et réponse COD du 27 mai 1962 p. 15. Maintenant, ici même ce serait comme si cela donnait. Et c'est Esther ainsi que vous voyez des contradictions dans la Bible. Mais il n'en est pas ainsi. Maintenant, ici, c'est Esther comme si la personne voudrait savoir, ou plutôt la question qu'il aimerait réellement poser, c'est Esther, un frère ou une sœur dans le Seigneur, peuvent-ils se marier ou se remarier et être libres de se remarier? S'ils quittent leur conjoint? 37 non. Eh bien, prenons. Commençons par le verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Voyez-vous? Que la femme Néhémie se sépare point de son mari, voyez-vous? Si elle est Esther séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari Néhémie répudie point sa femme. C'est Esther, c'est le commandement du Seigneur. Voyez, aux autres, ce n'est Esther pas le Seigneur. C'est Esther moi qui dis, voyez, si un frère a une femme non croyante. 38 bon, observez la raison qu'il donne, vous voyez. Et si vous lisez là avant ceci, tous les chapitres, vous verrez qu'il se disait, si on se maria à une femme qui était, je me mariais que je devienne un croyant, et que ma femme Néhémie soit pas une croyante, il me faut la répudier. Oh, non. Ce n'est pas ça. Vous Néhémie pouvez pas faire cela. Voyez-vous? Voyez-vous? Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il Néhémie la répudie point, c'est Esther, non pas à cause du mariage, c'est Esther à cause de l'incrédulité. Néhémie vous remariez pas. Voyez, restez avec elle. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle Néhémie répudie point son mari. C'est Esther vrai. Vous voyez? Car le mari non croyant Esther sanctifié par la femme, et la femme non croyante Esther sanctifiée par le mari, autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'ils se séparent. 39 Maintenant, si l'incroyant dit, je n'ai aimé plus vivre avec toi. Tu es devenue une chrétienne. Pour, si un homme dit à sa femme, puisque tu es sauvé que tu vas sortir du monde où nous étions autrefois, je vais te quitter. Eh bien, vous n'y pouvez rien. Qu'il s'en aille. Voyez-vous? Question numéro 5. Dans quel cas un jeune homme ou une jeune femme peut rompre la fréquentation? Réponse numéro 5. La fréquentation. Si mal engagement non. À moins qu'il n'ait découvert qu'elle n'était pas vierge. Et qu'elle lui avait dit qu'elle l'était. Il a le droit de la répudier comme Joseph. Allait le faire avec Marie. Pensant qu'elle était enceinte. Ayant couché avec un homme. Maintenant, je dirais ceci, si la fréquentation, c'était entre deux incroyants et qu'ensuite que l'un ou l'autre vienne au message, alors je n'ai mis, crois pas qu'il garderait son vœu parce que la Bible dit, comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble? À moins qu'il n'ait mis sa corde. Mais je crois que s'ils sont tous les deux dans le message, alors ils n'ont mis, doivent pas être pressés de s'engager, jusqu'à ce que de manière absolue, que l'autre soit la personne choisie par Dieu. L'union invisible de l'épouse 25 novembre 1965 p. 39. Si jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne, et arranger la chose. Sister pareil, pour l'Église qui fut mariée à la loi, elle doit aussi venir devant Christ, avant le second mariage, et elle doit confesser cela. Si elle n'est aimée le fait pas et qu'elle vive avec son mari 10 ans, et le confesse après, il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme. C'est à l'Écriture. La fornication, c'est à une vie impure. 68 Joseph, Néhémie craint pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il se proposait de rompre secrètement avec elle, voyez-vous, alors qu'il était déjà fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque vous êtes fiancé à une femme, vous êtes marié avec elle. Prions.